Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont vous pourrez retrouver les derniers opus dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler de Faux-Semblants, hein, oui, un hommage au réalisateur de Faux-Semblants, non ? Ben oui, si, parce qu'on a un certain Emmanuel Macron qui parle de profiteurs de guerre à propos de gens qui font des profits parce que c'est la crise. Tiens, oui, je ne sais pas si en 2008, il aurait parlé de profiteurs de crise quand il y a eu des émeutes à partir des années suivantes, quand certains se sont mis à spéculer sur le manger, que ce soit le riz ou le blé. Non, non, il y a toujours eu des profiteurs de guerre, et en particulier des spéculateurs, surtout dans un système qu'on appelle le système capitaliste, qui est basé sur l'accumulation de profits. On a entendu parler également dans cette série des faux-semblants, les patrons des énergies, les patrons des entreprises de l'énergie, hein, qui nous demandent de faire des économies. Ouais, faut qu'on arrête de leur rapporter du pognon. Faut peut-être qu'ils arrêtent aussi de nous pousser à dépenser du pognon. On aurait pu vous parler donc de ce bal des hypocrites qui à aucun moment ne nous disent que, ils vont, par exemple, mettre la main à la pâte pour faire en sorte que la société vive mieux. Non, non, ils s'en fichent complètement. Qu'à aucun moment ils vont remettre en question le système économique. Non, non, à aucun moment. Parce que ce qui les intéresse finalement, c'est ce qu'on appelle notre pouvoir d'achat. On en reparlera. On aurait pu vous parler également de féminisme. Les médias à genoux ont relayé toute la semaine le fait que des femmes accèdent enfin à des postes de pouvoir. Ainsi, le chef du gouvernement est une femme, Elisabeth Borne. Le président de l'Assemblée nationale est une femme, Yaël Braun-Pivet. Et enfin, le président du groupe le plus important de l'Assemblée nationale, donc Renaissance, ex-La République En Marche, est une femme également, Aurore Berger. Ce simple critère semble suffire à rassurer tout le pays sur la modernité de la France. Pour rappel quand même, Elisabeth Borne est cadre supérieur dans la fonction publique. Yaël Braun-Pivet est avocate en droit pénal avant de se spécialiser en droit des affaires, un métier du tertiaire supérieur. Et Aurore Berger a exercé le métier de communicante en étant en parallèle élue, ce qui n'est pas un métier, sous l'étiquette UMP avant de devenir élue sous l'étiquette En Marche, avant de devenir élue sous l'étiquette Renaissance avant de... Ah non, elle n'a pas encore viré sa cutie. Des profils tout à fait typiques au Parlement et dans le gouvernement. En aucun cas dans l'ensemble de la société. En quoi le fait d'être une femme nous garantit d'être mieux représentée ? Faudrait pouvoir poser la question à la population. Mais pour cela, faudrait avoir accès aux médias de masse qui, eux, sont très très contents de pouvoir nous dire « le pays est moderne. Regardez, les femmes sont au pouvoir. » On aurait pu vous parler de la lutte qui paie. Depuis 10 ans, un collectif, plusieurs même, se battent pour éviter qu'une trentaine d'hectares soient recouverts de béton à l'est du Mans. À Benair, les recours juridiques leur ont donné tort, tous. Bah oui, la justice n'étant pas là pour protéger notre environnement, mais pour dire le droit. Et comme le droit est toujours bien disposé à l'égard de l'exploitation de la terre par les êtres humains, les arguments en faveur du bétonnage, de ce qui reste des ceintures vertes autour des grandes villes, gagnent contre l'urgence à cesser de produire pour produire. Mais coup de théâtre ! Peut-être pour ne pas avoir à justifier son mépris pour le respect de notre milieu de vie, l'entreprise IKEA abandonne son projet d'implantation dans la zone de Benair. Ça fait déjà un gros trou dans le décor de cette zone commerciale. Allez, au suivant, pensez à vos enfants et aux petits-enfants et aux enfants de vos enfants et aux enfants des autres si vous n'en avez pas d'enfants. Oui, ils auront plus besoin de terres cultivables que de centres commerciaux. La lutte continue et l'association des riverains des Amis de Benair sont donc venus interpeller le maire de Le Mans à l'entrée du conseil municipal jeudi 30 juin. Les défenseurs de Benair sont intervenus pour présenter un projet alternatif pour la zone que Claude Hervé veut bétonner. En l'occurrence, un projet de mise en culture des terres pour du maraîchage. Stéphane Le Foll n'a pas donné suite à la demande d'entrevue puisque le terrain n'appartient pas à la ville ni à la métropole. On l'a déjà dit, la lutte continue. On aurait pu vous faire un petit rappel également, vous parler de la destruction programmée du bois du Fouillé. Petit rappel, justement.
Nous sommes ici presque au coin entre la rue du Soleil et la rue de Ruaudin à propos du bois du Fouillé. Où il y a toujours eu la volonté de la part de la municipalité de raser ce bois pour en faire un quartier d'habitation.
Alors, c'est toujours le cas, même si aujourd'hui on pourrait être satisfait du fait que nos actions qu'on mène depuis pratiquement bientôt un an, hein, puisqu'on a démarré le 26 juillet de l'année dernière, ont été entendues de la part des élus. Et nos différentes actions ont fait qu'ils ont été obligés de revoir leur projet à la baisse, en particulier pour préserver la trame verte et bleue. Donc au lieu de construire à une limite de 75 mètres, on préserverait 200 mètres. Et donc on aurait une bande un peu plus élargie, une bande de protection un peu plus élargie. Mais malgré tout, on n'est pas d'accord parce que ce projet ne nous convient pas du tout, parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est garder l'aspect naturel, préserver l'espace naturel tel qu'il est aujourd'hui.
Alors auparavant, il y avait presque l'ensemble du bois qui était rasé. Là, ce n'est plus que 26 hectares et plus que 350 logements. Donc vous dites que vous pourriez être rassuré ?
On n'est pas rassuré du tout, parce que nous, ce que l'on veut, c'est préserver l'ensemble du bois, parce que ramener 350 logements, c'est ramener d'abord de la circulation. C'est des problèmes au niveau de l'adduction d'eau, parce qu'on se retrouve, on a des quartiers qui sont relativement hauts, qui sont à hauteur du château d'eau pratiquement, et vous avez des maisons où c'est le goutte à goutte chez eux. Il n'y a pas moyen de prendre une douche au premier étage parce qu'il n'y a pas de pression d'eau. Donc si on a une consommation supplémentaire, on tire sur le réseau, on va forcément avoir une chute de pression. Donc ça, on n'en veut pas. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est préserver. Alors il reste aujourd'hui 28 hectares, oui, parce qu'on a consommé 4 sur les 32 initiales. Il reste 28 hectares, on veut les conserver en l'état.
Le bois en question, le bois du Fouillé, était auparavant mis non constructible. Est-ce que vous réclamez que de nouveau, au niveau du PLU, au niveau du plan local d'urbanisme, il soit à nouveau non constructible ?
Il faudra effectivement une nouvelle révision du PLU pour préserver et donner un statut à ce bois pour préserver son aspect naturel. Ça, c'est évident. Et à terme, on en passera obligatoirement par là.
Vous venez d'entendre Jacques Giray, président du comité de quartier du Grand Vauguyon, que nous avons rencontré samedi 4 juin, à l'occasion d'une après-midi d'information organisée par le collectif qui souhaite conserver le bois du Fouillé. Dans la série « Les ennemis de mes ennemis sont mes amis », le conseil départemental se positionne en faveur du reclassement du bois du Fouillé, justement, en espace naturel non constructible, contrairement à ce que veulent certains autres. Et oui, les divers droites majoritaires dans cette assemblée s'inquiètent de la biodiversité. Tout à coup, un bon moyen de savonner la planche d'un projet porté par Christophe Kounil, divers gauche. Je ne sais pas s'il est encore au Parti Socialiste, puisqu'il fait partie de ceux qui ont soutenu les dissidents qui peut-être... Ah, c'est compliqué. Et Le Mans Métropole, dont la majorité est à gauche. Rappelons quand même que tout ce beau monde est productiviste et s'est retrouvé sur le circuit dès 24 heures pour le départ de la course, dont nous tentions de dénombrer les nuisances dans une émission précédente. Mais ne boudons pas notre plaisir. Tout projet d'artificialisation supplémentaire des terres qui a du plomb dans l'aile mérite la plus large publicité. Et justement, il y a des appels des soulèvements de la terre, qui est un collectif de collectifs, pour cet été à propos des méga-bassines, que ce soit dans le Marais Poitevin ou dans les Alpes. Je cite, en cas de démarrage de tout nouveau chantier de méga-bassines, nous appelons à nous retrouver 3 semaines plus tard, plus massivement que jamais, pour manifester jusqu'au chantier et se donner les moyens de le mettre à l'arrêt. Nous resterons aussi longtemps qu'il le faudra et reviendrons aussi souvent que nécessaire. Si vous voulez plus d'informations, eh ben, lessoulèvementsdelaterre.org, lessoulèvementsdelaterre.org, il y a des S en veux-tu, en voilà. La désobéissance assumée devient alors le mode d'action prioritaire. Et en face, l'utilisation des forces de l'ordre pour maintenir les projets de destruction de nos milieux de vie continue. Par exemple, la zone à patates du Pertuis en a fait les frais cette semaine. Les gendarmes, harnachés comme pour aller à la guerre, ont expulsé les opposants à un projet d'extension d'une zone industrielle sur 86 hectares qui pourrait servir à faire de la nourriture pour les gens plutôt que d'importer la nourriture en question. Eh bien, ils ont été expulsés par les gendarmes et ça a permis la destruction des maisons encore debout sur la zone. Eh oui, détruire pour faire semblant de reconstruire. Parce qu'une zone industrielle, je suis pas sûr que ça soit véritablement le truc dont nous ayons besoin. Puisque quand même, pour que fonctionne cette zone industrielle, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Eh bien, ramener des matières premières pour produire des produits dont on n'a peut-être pas besoin, mais qui se vendront grâce à la publicité. Ça ressemble vraiment à une organisation mortifère. Les confrontations sont de plus en plus nombreuses entre ceux qui voient un peu plus loin que le bout de leur profit et ceux qui veulent faire du business pendant la fin du monde. La légalité, souvent du côté des promoteurs, soutenue par des lois votées sous pression des lobbies à l'Assemblée nationale. Mais qu'en est-il de la légitimité ? Ouais, la philo, ça y est, c'est passé pour le bac. Tiens, autre appel, dimanche 4 juillet à Saint-Colomban. Manifestation, je cite, « Nous appelons à une manifaction contre l'extension des carrières de sable et du maraîchage industriel à Saint-Colomban pour la défense de la terre, de l'eau et de l'installation paysanne. Rendez-vous le dimanche 3 juillet à 11h au lieu dit le Redour. » Eh bien, si vous êtes à Angers, il y a des covoiturages qui sont prévus. Rendez-vous dimanche 3 juillet à 9h30 sur le parking du centre commercial de la Roseraie, devant le McDo. Et à la même heure, devant les arts et métiers, parking de La Rochefoucauld. Pourquoi ? C'est contre l'extension de carrières de sable qui servent à quoi, à votre avis ? Eh ben, au bâtiment. Eh ouais, faut construire. Eh, mais si déjà on utilisait les logements vides, c'est pas con quand même. Et puis sinon, ben, le sable, ça sert à quoi également ? Ben, ça sert à l'industrie, hein, pour faire un peu tout et n'importe quoi. Et puis, il y a du maraîchage industriel aussi. Il y a de véritables mers de plastique qui se créent dans nos beaux pays. Là, en l'occurrence, on est au sud de Nantes. On n'est pas quand même très très loin. Normalement, on ne devrait pas avoir besoin de faire le pauvre goutte à goutte là pour des produits qui vont parfois pousser sans avoir vu un gramme de terre, comme un peu ce qui se passe dans certaines régions du Maroc ou dans certaines régions du sud de l'Espagne et du sud de l'Italie. Eh ben si, ça commence à venir ici aussi. Il faut dire que le climat a changé. Donc, pour se battre contre cette extension des carrières de sable et du maraîchage industriel à Saint-Colomban, manifestation 3 juillet, dimanche 3 juillet, rendez-vous à 11h au lieu dit Le Redour. Également, la semaine prochaine, c'est-à-dire du 8 au 10 juillet, ZAD Envie à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, l'occasion de rencontrer des collectifs de lutte et de s'organiser, de voir de la musique, voir des pestacles, etc., et de croiser des gens. Toutes les informations sur ZAD, nadir.org. Comme le site n'a pas tous les certificats qui vont bien, votre navigateur vous indiquera sans doute que le site zad.nadir.org est dangereux. Il n'en est rien. Non, il y en a d'autres des beaucoup plus dangereux. Hein. YouTube, etc. Bah, eux, ils ont les certificats. Donc, toutes les infos pour participer au montage et au démontage et les programmes des différentes journées et comment se rendre sur place, etc. zad.nadir.org. On aurait pu vous parler également de publicité.
Pour prendre soin de la planète, quel est le bon réflexe ?
Le bon réflexe, c'est le bioréflexe. Le bio, c'est un réflexe quotidien pour l'environnement et une agriculture sans utilisation de pesticides de synthèse. Pour nous et pour la planète.
Ayons le bioréflexe.
Ceci est un message de l'Agence Bio.
Ouais, alors l'Agence Bio, voilà, elle fait une campagne pour l'alimentation bio, avec enfin un petit pic contre les pesticides, dont on sait qu'ils tuent beaucoup. Ouais, alors ils tuent des plantes concurrentes de celles que les agriculteurs productivistes veulent absolument faire pousser. Et ils tuent les insectes aussi, qui pourraient décider de manger une partie des récoltes à venir. Ils tuent des champignons, qui ont les mêmes intentions que les insectes. Ils tuent aussi les abeilles, les petits rongeurs, des pesticides qui rendent malades les humains. Bah ouais, c'est confirmé. Voilà pour le petit pic. Maintenant, cette pub pour les produits bio possède un gros défaut. Celui de parler seulement de la bio sans critères, sans chercher à faire comprendre que la nourriture que nous devrions ingérer doit non seulement être exempte de résidus de pesticides, mais également produite localement. Pas des milliers de kilomètres sous des serres chauffées. Un poivron bio du sud de l'Italie vendu en mai sur un marché ou dans un hyper du Mans participe un peu moins, mais participe quand même beaucoup à la société de consommation et donc au gaspillage des ressources. Alors pour la prochaine campagne, les producteurs de bio, là, gagnez un petit peu en cohérence en intégrant le critère local. Merci d'avance. On aurait pu vous parler des activités de plein air, chose promise, chose due, n'ayant pas obtenu satisfaction précédemment. Le 24 juin, devant l'abbaye de Lépau, où se tient le conseil départemental, les agents du département travaillant dans le secteur du soin réclament encore et toujours la prime Ségur, annoncée en grande pompe par le gouvernement à la suite d'une grande messe, comme nos soi-disant représentants savent les faire. Sauf que bon nombre de métiers de la santé, pas directement en lien avec le soin, ont été exclus de cette prime. Et toujours pas d'avancée sur le sujet pour le département et même des contradictions dans l'attitude de Dominique Le Ménaire selon la CGT. Comment ça, des contradictions de la part d'un politique ? Ah ben si. À suivre. Santé toujours, il fallait pas avoir un besoin urgent d'être soigné dans le Sud-Sarthe le week-end dernier, puisque les urgences sont fermées au Bailleul du 25 au 27 juin. Le même service des urgences, donc au Bailleul, restera fermé la nuit durant la semaine du 2 au 9 juillet, et parfois en journée. Le samedi 2, faut pas être malade. Le mardi 5 non plus. Le jeudi 7, oh là là, besoin d'urgence ? Ben, pas dans le Sud-Sarthe en tout cas. Au pôle Santé Sud, ah là, on est dans le Mans. Les urgences seront fermées la nuit du 1er juillet au 30 septembre. Si vous avez un souci médical, comptez sur les urgences de l'hôpital du Mans, où les personnels assurent que les conditions ne sont pas réunies pour accueillir l'afflux prévu. Eh, ils sont déjà afflux tendus. Nous sommes dans un pays riche, on vous le dit. Eh oui, mais c'est en moyenne. Il semble que la santé de tous ne soit pas la priorité. Les plus riches continuent à se soigner. Bon, bah alors. À propos d'activités de plein air, jeudi 30 juin, ce sont les animateurs qui travaillent pour la ville, l'agglo et le CCAS qui se sont réunis. Ils se sont réunis où ? Eh bien, place de la préfecture pour se rappeler au bon souvenir de nos soi-disant représentants et réclamer ainsi des embauches, de meilleures conditions de travail et une revalorisation salariale, comme on dit. On aurait pu vous parler également de la fin du monde. Eh, petite nouvelle, durant la période de la canicule en Normandie, un coup de vent a fait chuter la température de 15 degrés en quelques secondes et poussé tous les touristes vers les terres. Un internaute basque indiqua que c'est arrivé sur la côte du même nom. De temps en temps, eh ouais, tout va bien. Restez chez vous et suivez les réseaux sociaux. Ouais, il y a sûrement des trucs super importants. Eh, en Normandie, ça commence à être le climat du Pays Basque. Et alors, cet épisode caniculaire a permis de battre des records. On était de la mi-juin jusqu'à la fin juin. Et les records, on aime ça dans un monde le plus souvent possible parcouru par des compétitions. À ce propos, il y en a qui commencent à faire le tour de la France. Eh ouais, mais surtout des classements. Ah, les classements. Importants, les classements. On attend quoi cette année ? Les Jeux Olympiques, la fête de je sais pas qui, la fête de je sais pas quoi. Mais en tout cas, il va y avoir de la compète, vous inquiétez pas. Et les médias d'annoncer alors du 39 par-ci, du 42 par-là, de la précocité, tout en montrant des touristes les pieds dans l'eau, en train de se rafraîchir. On appelle ça de la dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'on vous dit que c'est dangereux, mais on voit des gens contents. Qu'est-ce que vous voulez ? La canicule, ça fait faire de belles images. On apprend également que le coût serait de plus de 1 milliard d'euros. Et trois jours après, c'est la grève associée. C'est la grêle, pardon. Excusez-moi. C'est la lutte. Non, c'est pas ça qu'il fallait dire. Et trois jours après, c'est la grêle associée aux orages et les inondations qui font la une. Avec encore des chiffres et du témoignage. On n'a jamais vu ça, raconte Machin, interviewé après le passage des trombes d'eau ou le défonçage de son pare-brise à coups de grelons. Décidément, le dérèglement climatique, ça fait de bien beaux reportages. Et après, eh ben, on continue comme avant. Ben oui, parce qu'après, il y a des pubs pour machin, des pubs pour bidule. Oui, regardez les médias, de la dissonance cognitive, un petit peu de peur, mais surtout, continue à consommer, mon gars. Depuis cet épisode, des millions de personnes ont repris leur voiture pour aller produire. Le gouvernement annonce le déblocage de fonds d'urgence pour aider les agriculteurs qui ont tout perdu. Et puis, ben, nous, on va bouffer les fonds d'urgence, là. Et on attend le prochain épisode. Il va falloir s'habituer, Cléron, ceux qui ont une carrière à faire et des trucs à vendre. Et surtout, on ne change rien. En plus, en ce moment, les vents violents dispersent les polluants, ozone, poussière, dioxyde de soufre et donc pas d'alerte. Ben non, pas d'alerte comme par exemple le samedi 18 juin où l'ozone comme les poussières s'accumulaient dans l'air surchauffé que nous respirions dans toute la France. Des poussières augmentées de cendres dans les régions où les incendies sont à l'œuvre. On s'est tous un petit peu abîmé les muqueuses en attendant la prochaine fois. Et ben pour les habitants du sud-est en ce moment, la prochaine fois c'est un peu tous les jours avec des quantités d'ozone dans l'air qui flirtent avec l'objectif maximum pour un air de qualité, soit 120 microgrammes par mètre cube d'air. Eh, sachez que pour la France, c'est 180 microgrammes par mètre cube d'air. Et là, on vous informe que ça peut peut-être être dangereux. Alors que l'objectif de qualité, c'est 120. Allez comprendre. Je vous propose de se garder un peu l'état de sécheresse pour la prochaine fois. Ouais, parce que là, déjà, on est pas mal. Parce que finalement, on a préféré vous parler, bon, pas longtemps, mais un petit peu de l'état. Ça y est, les élections sont terminées. Donc depuis la fin avril, l'État est dirigé par Emmanuel Macron. Élu avec 18,8 millions de voix, soit 38,5% des inscrits au second tour. Ah oui ? D'après un sondage IFOP sorti des urnes le 24 avril, 43% des électeurs de Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle ont voté pour éviter l'arrivée de son adversaire au pouvoir. Alors en prenant une fourchette basse, hein, les fameux 5%, mettons donc 60% de vote d'adhésion. 60% de 18,8 millions, ça fait 11 millions. 11 millions de votes pour le programme proposé par Ensemble, le nouveau nom de La République En Marche, associé à Horizon, associé au Modem. Ce qui donne 23,1% des inscrits. Même pas une personne sur quatre a voté pour le projet proposé par celui qui est président de la République. C'est peut-être pour ça qu'au niveau législatif, les résultats sont encore moins représentatifs de la population. Alors que le système politique s'appelle la démocratie représentative. Il n'y aurait pas comme un petit problème là ? 52,49% d'abstention au premier tour et 53,77% au second tour. Ça veut dire qu'une plus d'une personne sur deux qui est inscrite sur les listes électorales, c'est-à-dire c'est même pas tout le monde en âge de voter, eh bien, n'y est pas allé. À cela, il faut ajouter 1 700 000 personnes qui se sont déplacées pour aller voter blanc ou nul, soit 3,5% des inscrits. Alors, au second tour, il reste 42,6% des voix exprimées. Parmi ces 42,6% des voix, les analyses de sondages, sorties des urnes, confirment celles des élections passées. Les cadres et les vieux sont surreprésentés au détriment des ouvriers, petits employés et des jeunes. Ces vieux et cadres votent plutôt pour la sécurité et le maintien de l'ordre économique, puisqu'ils sont plutôt du bon côté de la barrière. Et voilà comment toute la population est représentée en majorité par des partis de droite qui recueillent 25% des voix. 25% des voix des inscrits, ouais, puisque la moitié n'y est pas allée. Localement, la dissidence du Parti Socialiste a joué à fond le sabotage des candidatures de la gauche unie dans la NUPES. Pour le PS local des élections, les élections ont été l'occasion d'appliquer l'inverse du serment d'Hippocrate qui anime les soignants. Ce coup-ci, c'était « au moins nuire ». Au moins nuire au premier tour. Et puis ce fut un revirement fantastique. Par la voix de Christine Taforo-Hardy, première secrétaire de la Fédération du PS de la Sarthe, lundi 13 juin, le Parti Socialiste de la Sarthe donna une consigne de vote. Je cite, « Pas une voix ne doit se porter sur le RN. Et en tant que parti de gauche, nous ferons en sorte de faire gagner les forces de gauche et de progrès. » Ah ben il était temps, parce que si on fait de la vulgaire tambouille mathématique, au premier tour, dans la troisième et la cinquième circonscription de la Sarthe, les voix des dissidents socialistes ont empêché les candidats de la NUPES d'aller au second tour. Alors des seconds tours de folie, comme Modem contre RN dans la troisième circonscription et Renaissance contre RN dans la cinquième circonscription. Ah ça, c'était un choix. Le résultat des courses, 5 élus pour 5 circonscriptions. On n'est pas rassurés là. Donc Marietta Caramanli, qui a été exclue du PS depuis qu'elle avait présenté sa candidature dissidente au municipal de 2020 et qui a été investie par la NUPES, qui regroupe une kyrielle de partis et de mouvements politiques autour de 4 pôles. Le pôle La France Insoumise, le pôle EELV, pôle écologiste, le pôle PC, pôle communiste, et le pôle PS. Ah attendez. Alors, aux dernières nouvelles, Marietta Caramanli siège dans le groupe des socialistes et apparentés, groupe de députés animé par le Parti Socialiste dont elle a été exclue. Vous comprenez plus rien ? C'est pas grave, l'important, c'est qu'il y ait du monde à gauche. Julie Delpech, Renaissance, a été élue également. Éric Martineau, Modem, Élise Le Boucher, La France Insoumise, et Jean-Carl Grelier. Jean-Carl Grelier, ex-apparenté, Les Républicains, qui ne savait même pas qu'il était devenu macroniste au début, qu'il avait été investi. C'est du moins ce que j'ai lu dans la presse. Mais depuis qu'il le sait, il le sait puisqu'il est membre du groupe de députés Renaissance et tout est bien plus clair. Tout ce beau monde s'est installé au Palais Bourbon et ils ont même été nommés dans les commissions pour préparer les lois qui vont concerner tous les habitants du territoire appelé France. Marietta Caramanli est à nouveau à la commission des lois. Jean-Carl Grelier, il siège encore à la commission des affaires sociales. Ouais, parce que les deux, là, ils y étaient déjà dans la 15e législature, de 2017 à 2022. Éric Martineau du Modem, il est dans la commission des affaires économiques. Et Élise Le Boucher et Julie Delpech se retrouvent à la commission des affaires étrangères. Brinque-ballant du fait de l'absence de majorité parlementaire, du fait de la représentativité très partielle de la population. Oui, rappelons quand même qu'un tiers des députés, ce sont des cadres. 4 sur 577 sont des ouvriers. 3 policiers, tous au Rassemblement National. Je sais pas qui est-ce qui est vraiment représenté. Vous imaginez ? On est dans la population française, un tiers de cadres. Non, pas du tout. Peut-être que justement, c'est pour ça que les lois ont cette petite teneur, va bosser, gagne beaucoup de pognon, achète-toi une résidence secondaire. Ouais, mais c'est pas le cas de tout le monde, ça. Alors c'est ça qui est un petit peu embêtant, parce que le fait qu'il y a un tiers des députés qui sont des cadres, peut-être que ça biaise un petit peu l'entendement de cet ensemble qu'on appelle l'Assemblée nationale. Donc brinque-ballant, du fait également de l'abstention record, que ce soit à l'élection présidentielle ou à l'élection législative, brinque-ballant, disais-je, l'État est malgré tout en place. et les différents pouvoirs qui le composent vont avoir la capacité de s'exercer. Le Parlement va faire des lois, le gouvernement et la présidence de la République vont proposer des lois et ils vont pouvoir les faire appliquer à partir du moment où le Parlement les aura votées, et la justice va pouvoir trancher les litiges et punir les contrevenants. Tout ça pour nous. Ben oui, puisque la République française est une démocratie. L'État est là pour nous. Seulement, une grande partie de la population reste souvent sur le carreau, alors que les institutions étatiques, plutôt composées d'hommes de plus de 50 ans bien installés du fait de leurs revenus situés dans les 20% les plus riches, ne suffisant à elles-mêmes, produisent ces institutions étatiques produisent des textes, des règlements, des ordonnances, des lois visant le plus souvent à faire durer la situation antérieure. Une situation basée sur l'exploitation de la force de travail des ressources humaines pour faire croître en moyenne, bah oui, la richesse c'est en moyenne, le produit intérieur brut par habitant. Non, on n'aura pas tous la même chose. Bah sinon, ça sert à quoi d'aller bosser? Mais cet état de fait n'est pas inéluctable. Il est même de nombreux courants de pensée pour remettre en question l'État, et donc les institutions dont il s'est doté pour imposer sa vision du monde aux populations. En premier lieu, les anarchistes. Voilà une motion rédigée par la Fédération anarchiste. La Fédération anarchiste qui fait d'ailleurs sa brocante à la librairie Publico, c'est à Paris, dimanche 3 juillet, l'occasion d'acquérir des ouvrages de qualité au moindre prix. Je ne serais pas en train de vanter les soldes, moi. La Fédération anarchiste, donc, disais-je, avant d'être interrompu par la coupure pub, est un ensemble de groupes et de liaisons dont... Ouais, parce que quand les libertaires sont pas assez nombreux, pour former un groupe, ils forment une liaison. Parce que comme disait Léo Ferré, il y en a pas un sur 100 et pourtant. Donc ils sont présents dans toute la France, ces groupes et ces liaisons, et même en Suisse. Des groupes et liaisons qui, fédérés, ont pour objectif de diffuser les idées anarchistes, souvent confondues à dessein par ceux qui n'en veulent pas, avec le bordel. Pour en savoir plus sur le sujet, fédération-anarchiste.org. Donc à propos de l'État et de ses institutions, citons une motion de 2002 rédigée après l'élection de Jacques Chirac, candidat de la droite libérale productiviste, opposé alors à Jean-Marie Le Pen, le père de l'autre, candidat d'extrême droite, lui aussi productiviste. Je cite. La Fédération anarchiste ne peut se féliciter de la victoire d'un Chirac, tout comme elle n'aurait pu se réjouir de celle d'un Jospin ou de qui que ce soit de plus fasciste. Nous rappelons que le principe de la démocratie représentative est d'abandonner sa voix et son pouvoir au profit d'un politicien. À cet égard, rien n'a changé. Malgré les taux d'abstention records, jusqu'à ce pathétique second tour, les politiques antisociales de droite comme de gauche et l'impunité des élus en sont la cause principale, les élections passent et les problèmes restent. La majeure partie des partis politiques, des organisations syndicales et des associations, a voulu nous faire croire qu'il fallait sauver la République. Celle-ci même qui, pilotée de nouveau par Chirac, met en danger nos libertés fondamentales. À gauche ou à droite, plus personne ne remet en cause une société fondée sur les inégalités économiques et sociales. Tous défendent le droit d'opprimer et d'exploiter autrui. Nous n'avons rien à attendre d'eux. À coup de privatisation, de casse du service public, de loi sécuritaire, les gouvernements successifs sont responsables et coupables. Qu'ils ne comptent pas sur le mouvement social pour les sortir du gouffre. Et donc, à la fin de la motion, il y a un autre projet. Ce projet devra remplacer l'exploitation de tous par la gestion directe de la production et de la distribution des richesses par et pour la population. Oh, ça m'a l'air démocratique. Ce projet, au lieu de confier la gestion des intérêts de la population à une minorité de privilégiés, devra structurer l'intervention directe de chacun dans les décisions les concernant. Il est de la responsabilité de chacun de le faire vivre partout. Partout, affirmons notre présence, occupons le terrain, soyons actifs, manifestons. Avec tous ceux et toutes celles qui aspirent à une autre société, construisons une alternative sociale, d'émancipation, de liberté et de justice. Ah bah c'est pas le projet républicain de Agnès Pannier-Runacher, hein. Mais bon, on reconnaît là la prédisposition des anarchistes à l'action directe, sans le filtre de l'homme providentiel, qui peut aussi être une femme d'ailleurs, à n'importe quel échelon de l'activisme. Le but est la fin de l'État, cette institution représentée comme le socle de la société. C'est du moins ce que prétendent les détenteurs du pouvoir étatique. Et si finalement l'État s'avérait être nuisible pour la société, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. On est en retard, alors on vous donnera des nouvelles de l'allumette la prochaine fois. Et puis en attendant, on se dit quoi? On se dit allez, au revoir.